Alors je vais lire le texte de la parole de Dieu qui va être prêché juste après. C'est dans Marc chapitre 8 verset 10, et si vous avez les Bibles qui sont sur vos chaises, c'est à la page 650. Voilà, je vous laisse trouver. Donc il y a deux passages, chapitre 8 verset 10 à 26 et ensuite chapitre 9 verset 2 à 13. On parle de Jésus. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait « ressuscité ». Puis ils lui posèrent cette question. « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit « Élie doit venir d'abord pour rétablir toute chose. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ?» Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet.
Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Juste avant de démarrer, j'aimerais tester. Yes. Super. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Quelle attention prêtez-vous à la parole de Christ ? Dans les paraboles du royaume, Jésus dit « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. » Ce à quoi nous accordons notre écoute, ce que nous laissons entrer dans notre cœur, produit des perturbations, au point de nous faire oublier ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Dieu use de patience et de pédagogie afin que la semence qu'il a déposée dans nos cœurs grandisse, qu'elle porte du fruit, qu'elle soit amenée à sa pleine maturité. Et vous savez pourquoi c'est important, ça ? Parce que notre salut nous sera accordé au prix de notre foi. Au dernier jour, quand Jésus reviendra, notre salut sera accordé au prix de notre foi. Et comme nous le savons, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelle attention prêtez-vous à la parole de Christ ? Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus s'agace de la lenteur des disciples à comprendre, à intégrer la parole de Dieu, à la retenir. L'homme a une telle tendance à l'oubli. Il a le cœur oublieux. Par exemple, si je vous demandais comment Dieu s'est révélé à vous cette semaine, qu'est-ce que vous répondriez ? Est-ce que vous avez vu la grâce de Dieu cette semaine dans votre vie ? Vous répondriez quoi ? Nous sommes aveugles. On a besoin de la grâce de Jésus-Christ, on a besoin du secours de Christ pour voir comme Dieu voit. Il y a 2 semaines, Sylvain a posé cette question : qui est prêt à suivre la personne de Jésus-Christ ? Et il y a 2 éléments, je pense, que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Le premier, c'est Marc 8, 31, où on l'avait dit que Jésus, pour la première fois, parlait de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. C'est la première fois qu'il en parle, et c'était il y a 2 semaines quand on a vu ce passage-là. Et le 2e élément, c'est les conditions pour suivre Jésus, pour être disciple de Christ. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, on va voir 2 passages qui encadrent celui d'il y a 2 semaines. Alors, on se situe sur la côte ouest de la mer de Galilée, un peu au nord. Et on se situe après la 2e multiplication des pains. Et Jésus, là, il est confronté à l'incrédulité des pharisiens. Donc, je commence la lecture du texte et nous lisons à la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas reprendre toute la lecture du texte, hein, simplement les versets qui me semblaient clés pour vous apporter le message. Donc, le verset 11. « Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. » Les pharisiens, on les connaît. On les connaît. Ils viennent voir Jésus avec des intentions hostiles. Ils viennent le tenter, en fait. Ils viennent pour l'éprouver. Ils n'ont pas vraiment envie de connaître Jésus. Et ça fait penser un peu à la manière dont Jésus avait été tenté dans le désert par Satan. Les disciples sont là, ils écoutent. Et les pharisiens tentent Jésus. Ils tournent autour de lui, un peu comme un objet de curiosité. Ils l'observent, mais sans vraiment essayer de comprendre qui il est. En fait, ce qu'ils veulent, c'est du miracle. Et Jésus, il a réalisé tellement de miracles. Et il les a accomplis à la suite, en fait. Les uns après les autres. Mais ce qu'ils veulent, c'est un miracle qui vient du ciel. Ils n'ont pas encore vu ça. Ils veulent quelque chose de spectaculaire. Mais après, ils vont demander quoi ? Ben après, ils demanderont, si t'es le Messie, descends de la croix. Et après, ils demanderont quoi ? C'est incessant, en fait. Il y a toujours des questions, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de vraies questions qui les concernent. Tout est cohérent chez Jésus. Rien ne lui fait défaut. Ses miracles lui donnent un poids éternel de gloire. Son identité ne laisse aucun doute. Est-ce que vous avez une montre au poignet ? Ouais, certains ont une montre en poignet. Ben, si vous avez une montre, vous voyez le nom du fabricant sur votre montre. Le nom du bijoutier, ben de la même manière que le nom du bijoutier désigne le fabricant d'une montre, la création tout entière désigne le nom de son créateur. Le ciel est un livre ouvert qui raconte la gloire de Dieu. Chaque jour nous parle un peu comme si on faisait partie d'une grande histoire où Dieu nous invitait à le contempler, à regarder sa beauté, à nous émerveiller. Est-ce que vous vous émerveillez quand vous regardez la beauté du ciel, son étendue, Et vous avez remarqué, la lumière du matin, ce n'est pas la même lumière que le soir, ni quand le soleil est à son zénith. Des fois, le bleu est plus clair, des fois, il est plus profond. C'est juste magnifique. Les scientifiques disent qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans le ciel visible. Mais l'univers tout entier en contient un nombre... C'est le cerveau humain n'est pas capable d'intégrer, de conceptualiser ce chiffre tellement il est grand. C'est juste grandiose. C'est divin, en fait. Dieu se révèle à travers sa création. Il est le créateur du ciel et de la terre, et tout l'univers lui appartient. David lui a rendu ce témoignage quand il a écrit le psaume 8. « Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et quand on considère toute cette beauté comme venant de lui, ben, l'émerveillement devient adoration. Ne nous lassons pas de lui dire combien sa création est belle, combien son ciel qu'il a créé, qu'il est beau, qu'il est magnifique. Il est aussi le Dieu très haut et nous on est ici-bas. Il est en haut et nous on est en bas. Et dans le même psaume, David a dit quelque chose qui nous interpelle aussi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Certaines réalités nous échappent, mais Dieu ne nous oublie pas. Il s'intéresse à nous, il prend soin de nous. Nous avons de la valeur à ses yeux, nous sommes créés à son image, nous sommes ses créatures. Et ça, c'est important pour nous parce que nous connaissons notre origine. Et si nous connaissons notre origine, nous savons que nous lui appartenons. Mais nous savons aussi qui nous sommes. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Il nous a placés sous le ciel. Qui l'a créé ? Cette création, c'est son monde. On est dans son monde. Et le but de la vie, c'est d'adorer le créateur de la vie. Alors, quand Dieu révèle sa grâce et sa bonté, le plus grand des péchés, c'est de rejeter sa grâce et sa bonté par ingratitude et endurcissement de cœur. En méprisant Jésus, les pharisiens précipitent sur eux le jugement. On continue verset 12. Jésus soupira profondément dans son esprit. Cette expression, elle a une équivalence dans l'Ancien Testament. Lorsque les Israélites avaient mis Dieu à l'épreuve dans le désert, Dieu leur a répondu, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu use de patience pour un temps, mais l'heure du jugement vient. Au premier siècle, le temple, c'était le lieu d'adoration. Les Juifs se réunissaient dans ce temple, c'était là qu'était Dieu, c'était la présence de Dieu. Et ils venaient adorer Adonai, le Seigneur. Mais les chefs religieux en avaient fait un centre de profit. Il y avait des vendeurs d'animaux, d'animaux qui étaient sacrifiés, il y avait des changeurs de monnaie. Alors quand Jésus arrive et qu'il voit ça, mais il se met en colère. Il passe un coup de balai, il fait le ménage, il fait place nette. Ce passage qu'on appelle souvent la purification du temple, c'était un avant-goût du jugement qui donna lieu à la destruction du temple en 70. Ils avaient fait du temple une contrefaçon à l'image de leur cœur. Pour eux, c'était impensable de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Leur attachement aux apparences dominait leur cœur. Peut-être que vous vous souvenez du prophète Samuel. Dieu lui avait donné une mission et lui avait dit « J'ai besoin que tu me cherches un nouveau roi pour remplacer Samuel. » Et c'est ce que... Pour remplacer David, pardon. Saül. Merci. Et c'est ce que Samuel a fait. Il a écouté Dieu et Dieu lui a dit « L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous sommes aveugles. Nous avons besoin du secours de Jésus pour voir comme Dieu voit. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Et c'est la raison pour laquelle Jésus prêtait une attention toute particulière aux fréquentations des disciples. Vous avez vu le verset 15 ? JD, je te laisse... Ouais, j'ai l'impression que... Ok. Le verset 15, « Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain et des pharisiens et du levain d'Hérode. De la même manière que le levain fait lever toute la pâte, ben le péché souille tout l'être. Et c'est une manière de leur dire, gardez vos cœurs de la corruption morale, de l'hypocrisie des pharisiens et des mondanités d'Hérode. Ne leur ressemblez pas, ne les fréquentez pas, restez à l'écart. Veillez sur vos yeux et sur votre enseignement. » Alors Jésus leur fait cette recommandation parce que ce qui obtient notre approbation influence nos pensées, influence nos paroles, influence même nos émotions et nos choix de vie. Nous sommes aveugles, nous avons besoin du secours de Jésus pour voir comme Dieu voit. Mais les disciples ne comprennent pas. Les disciples ne comprennent pas. Ils sont focalisés sur quoi ? Sur le pain. Alors c'est sûrement masculin de faire un détour par le ventre pour analyser une parole. Peut-être qu'ils pensaient à leur prochain repas. Il n'y avait pas assez de pain apparemment. Peut-être qu'ils étaient préoccupés, qu'ils pensaient à autre chose. En tout cas, il y a une incompréhension flagrante entre Jésus et les disciples. Jésus les enseigne et eux, ben physiquement ils sont là, mais leur esprit est ailleurs. Est-ce que ça vous arrive quand on vous parle d'être ailleurs ? Vous êtes là avec la personne et puis finalement vous êtes quelque part entre ciel et terre. Est-ce que ça vous arrive de lire la parole de Dieu et d'avoir l'esprit ailleurs ? D'avoir du mal à vous concentrer, d'être distrait ? Ça me parle, hein ? Jésus a l'air bien agacé, en fait, par la faible qualité d'écoute de ses disciples. Il les reprend. À partir du verset 17, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas ? Comment se fait-il, au verset 21, que vous ne compreniez pas ? Alors la première réaction, moi ça me fait sourire. Ça me fait sourire, on est comme ça. On est comme ça. Je me dis que Jésus a une telle patience face à l'aveuglement spirituel des disciples. Il a rassasié des milliers de personnes. Il a donné à manger à tout le monde, avec juste quelques pains et quelques poissons. Et même il y a des restes. Et les disciples ont mangé. Je me rends compte aussi que Dieu m'accorde la même patience et la même compassion qu'il a eue envers les disciples. J'ai besoin d'être repris par la parole de Dieu et constamment j'ai besoin d'entendre sa voix. Mon cœur a naturellement tendance à vagabonder. Et Dieu nous accorde la même patience et la même compassion qu'il a accordée aux disciples. Vous êtes d'accord avec ça ? Dieu nous accorde la même compassion, la même patience qu'il a accordé aux disciples. Alors je serais incapable de dire quelles étaient les distractions au premier siècle, il y en avait sûrement, mais ce que je constate, c'est que de nos jours, c'est le culte de l'image qui s'installe et qui vient brouiller notre perception de la vision du monde de Dieu. Les écrans attirent les regards, et comme les yeux sont des capteurs d'image, les écrans nous piègent dans le virtuel. L'addiction se met vite en place. J'ai lu quelque part que si vous commencez à regarder un film de 2 heures et qu'au bout de 5 minutes, vous prenez votre téléphone, vous êtes sous une addiction. C'est ça, être addict. Alors une autre façon de regarder cette réalité, ce culte de l'image, c'est la facilité et la rapidité avec laquelle on obtient ce qu'on veut. Si on paye un peu plus cher, on peut même être livré le lendemain. Alors j'ai fait attention à ça, et c'est pas si cher que ça en fait la différence de prix. Ça veut dire que c'est vraiment tentant. Et ce système, il est fait pour ça. Il capte notre attention, il met la main sur notre portefeuille, et il nous rend esclaves. Ça crée l'addiction, en fait. La culture du tout de suite développe une tendance à l'ingratitude et à la paresse. Ingratitude parce que, bah, finalement, quand on commande quelque chose et qu'on reçoit, bah, on est dans une attitude où on se sert et on est servi. On n'a plus besoin de dire merci. Et puis la paresse, parce qu'en ayant le monde à portée de main sur le smartphone, ben on perd le goût de l'effort. Alors quand il faut travailler, c'est dur. Et vous voyez comment les tendances culturelles peuvent abîmer notre foi, et on a du mal à s'en rendre compte. Si on n'est pas éclairé par la parole de Dieu, si on n'a pas le secours de Jésus, on ne voit pas ces choses, on n'est pas attentif à ça. Nous sommes aveugles, nous avons besoin du secours de Jésus pour voir comme Dieu voit. Et pour nous montrer à quel point c'est vrai, Jésus fait preuve de pédagogie encore et encore. Il fait ça à merveille. Non seulement il change le mal en bien, mais en plus il nous enseigne. Et ici, il va guérir un aveugle en deux étapes. Alors ça, ce n'est pas habituel. Alors Jésus ne s'est pas loupé, c'est pédagogique. Alors je vais lire à partir du verset 23. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur les yeux. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Jésus peut, mais pas vous. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Mais cette guérison, en fait, c'est l'illustration d'une guérison de la foi, en fait. Le processus de la foi. On ne peut pas venir instantanément à la foi, on a besoin de l'intervention répétée de Jésus. Alors on pourrait définir la foi de cette manière-là, c'est Hébreux 11.1 qui dit « La ferme assurance, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, ça veut dire quelque chose d'intéressant. Il se passe des choses dans le monde spirituel et il se passe des choses dans le monde naturel. À chaque fois que nous voyons Jésus agir en faveur des disciples, il se passe quelque chose dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Les deux vont de pair. De sorte que lorsque les disciples commencent à marcher par la foi, ben ils marchent moins par la vue. En même temps que la foi en Jésus naît, l'aveuglement spirituel diminue. Vous voyez, ça fonctionne ensemble. Plus les yeux spirituels s'ouvrent, plus les yeux naturels voient. Jusqu'au jour où Jésus demande à ses disciples, « Et vous ?» « Qui dites-vous que je suis ?»« Tu es le Christ, » répondit Pierre. Ça, c'est la première étape du processus. Plus les yeux spirituels s'ouvrent, plus les yeux naturels voient. Le dévoilement, il n'est pas total, il est partiel. Mais Jésus ne va pas laisser Pierre dans cet état. Il fait pareil avec nous. Son but, c'est de nous rendre purs, et le nôtre, c'est de nous laisser purifier par lui. Jésus nous apprend à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Alors on a parlé de la première étape de la guérison de l'aveugle, maintenant on va voir la seconde étape. Jésus se révèle tel qu'il est. On passe au chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 6 jours après la confession de Pierre, les 3 disciples aperçoivent l'éclatante beauté du Fils de Dieu dans sa gloire. Jésus change d'aspect devant eux, il est transfiguré. Pierre perd les pédales, ce qu'il dit n'a aucun sens. Et dans l'Ancien Testament, quand Ésaü a vu la gloire de Dieu, il a eu peur, il croyait qu'il allait mourir. Donc pas étonnant que les disciples soient effrayés, on comprend. Après avoir vu la gloire de Dieu, la gloire du Fils de Dieu, ils voient la nuée qui représente Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Et avec la nuée qui vient, ils entendent la voix du Père, portée par l'Esprit. Celui-ci est mon bien-aimé, écoutez-le. Et aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent plus que Jésus seul avec eux. C'est toute l'histoire d'Israël qui passe le flambeau au véritable Israël, Jésus. C'est lui qu'il faut écouter. C'est Jésus seul qu'il faut écouter. Il n'y a rien à ajouter, rien à ôter. Jésus est tout suffisant. C'est lui qui mène notre foi à la perfection. Et cette parole, elle a dû les interpeller parce qu'elle rappelle Ésaïe 42, mais elle rappelle aussi le prophète qui devait venir. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Les Juifs du premier siècle attendaient ce prophète. Et la révélation se termine comme ça. Après ça, ils redescendent de la montagne. Jésus leur redit encore qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, qu'il va souffrir beaucoup. Et eux, ils se posent des questions sur Élie. Mais ils n'avaient pas entendu une voix qui disait « écoutez-le ». C'est précisément ce que Jésus veut qu'ils écoutent et comprennent. C'est qu'il doit mourir, qu'il doit ressusciter et qu'il doit souffrir beaucoup. Et pour eux, ça semble inconcevable. Et vous voyez l'image qu'on a au début, si on peut la voir apparaître. Voilà, cette image. D'un côté, on voit le Messie roi, vous avez vu, avec la couronne. Et de l'autre, on voit le serviteur souffrant, avec la couronne d'épines. Ce que Jésus leur a révélé avant l'heure, c'est son identité et sa mission. Pour qu'après la Pentecôte, avec l'Esprit de Jésus en eux, ils aient ce souvenir impérissable. Le Jésus de leur cœur, c'est un roi serviteur, un Messie souffrant. Il n'est pas venu pour se servir, il n'est pas venu pour imposer son règne par la force, il n'est pas venu pour renverser le gouvernement romain et se proclamer ou s'auto-proclamer roi. Il aurait pu faire valoir ses prétentions messaniques et demander des légions d'anges au Père pour faire venir son règne sur les nations. Mais Jésus, ce n'est pas ce genre de roi. Au lieu de revêtir une couronne d'or et de pierres précieuses, il va revêtir une couronne d'épines. C'est cette image de la souffrance, de la mort qu'il va subir à notre place. Pierre, Jacques et Jean ont tout quitté pour suivre ce roi. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Et nous, on en est où? Chacun et chacune. On en est où? Et bien qu'ils ne comprennent pas grand-chose, on voit que Jésus a suscité leur foi et l'a fait grandir. Jésus donne tout ce qu'il faut pour croire, et quand on croit, il se révèle à nous. Il se révèle pleinement. Et pour les disciples, il faudra encore attendre un peu. Il faudra qu'ils expérimentent Jésus, le message, le contenu de la révélation quand même qu'ils ont reçu. On voit bien que quand ils descendent de la montagne, ils sont tout penauds, ils comprennent pas trop ce qui leur est arrivé. Ça doit descendre au cœur. Et bien pour nous, c'est un peu pareil. On expérimente Jésus, sa personne et sa mission. Alors si on ne comprend pas tout, on peut être encouragé quand même, parce que eux avaient Jésus en chair et en os avec eux. Nous avons sa parole, et quand nous écoutons sa parole, nous entendons cette voix. Cette voix-là, celle qu'on a lue. Je vous invite à la prière. Notre Père, oui, tu es notre Père, tu es notre Créateur, et ta création est merveilleuse, elle est magnifique. Merci parce que tu nous as placés dans ta création pour être tes ambassadeurs. Merci pour ta parole, ton Fils que tu as envoyé. Merci parce qu'on est là pour l'adorer, le Créateur de la vie. Merci de nous rappeler d'où nous venons, qui nous sommes, ce que tu as fait pour nous et ce que tu continues de faire pour nous. C'est vrai, on est aveugle. On a besoin de ton secours pour voir comme toi tu vois, mais aussi pour vivre comme toi tu veux. Pardon pour nos négligences. Apprends-nous à t'écouter et à t'obéir. Merci parce que tu veux le meilleur pour nous. Toi, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors s'il te plaît, renouvelle notre persévérance. On veut s'accrocher à toi, on veut espérer à toi. Ouvre nos yeux et nos oreilles pour qu'on comprenne du cœur ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Protège-nous. Seigneur, nous t'attendons. Nous savons qu'un jour nous marcherons, non plus par la foi, mais par la vue, parce que nous te verrons tel que tu es. Alors louange à toi, Père. Gloire à Jésus-Christ et béni soit Saint-Esprit. Amen. Alors on va passer à la scène. Et on va rester chez Marc, 14, versets 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et dit... Enfin, il ne dit pas. Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus inaugure son royaume par une nouvelle alliance, une autre manière de penser, une autre manière de parler, une autre manière de vivre. Et il nous invite à le suivre dans ses souffrances, à renoncer à nous-mêmes, à porter chacun notre croix. C'est le chemin d'une vie, en fait. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est le résumé, en fait, de ce qu'est un disciple du Messie roi et du serviteur souffrant. Il a tracé le chemin et nous, nous marchons dans ses traces. Alors peut-être que vous avez quelque chose sur le cœur en ce moment. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à réconcilier, hein, une réconciliation à chercher, un pardon à obtenir ou à demander à un frère ou une sœur. Peut-être encore qu'il y a quelque chose à mettre en conformité avec la volonté de Dieu. Alors on vous encourage à réaliser ces démarches avant de communier. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à partager le pain et le vin ensemble.